tout à l'heure.
Ok, c'est bon.
Bon. Du coup, on va passer sur le deuxième sujet qu'on avait mis en place, ou en tout cas où il y a eu le plus de réponses favorables, qui était donc la partie... Mince, je me suis perdu entre-temps. Qui est donc la partie activisme avec différents groupes. Alors, il y en a pas mal qui ont touché le monde, entre guillemets. Hein. Le plus connu, c'est Anonymous. Il faut savoir que c'est pas le seul qui marche en international, hein, ou en France. Hein. Donc, c'est quoi déjà un activiste? Alors, il y a deux types d'activistes. Il y a ceux avec le A, il y a ceux avec le H. Nous, on va plutôt se concentrer sur ceux avec le H, qui représentent souvent des hackers, plus que les activistes avec le A, qui sont plus ceux que vous verrez dans la rue. Par exemple, en France, les activistes, vous aviez les gilets jaunes, qui étaient des activistes. C'est l'activisme, c'est le fait de faire une action politique ou non dans le but de faire changer les choses. C'est ça de l'activisme, c'est une action. Alors les activistes avec un H, donc vous avez Anonymous qui est le plus connu. Alors c'est un groupe qui a été connu internationalement par différentes actions. Ça part d'une idée, hein, sans responsable, où tout le monde a sa voix, où il n'y a pas de cette notion de hiérarchie. On est totalement dans un concept différent du capitalisme. On n'est pas non plus dans du communisme, on est dans une vie en collectivité, je dirais. Je dirais que peu importe votre pays, votre âge, votre couleur de peau, votre sexe, chez Anonymous, vous n'aurez pas ce jugement ou cette différence qui vous sera faite. Pour les membres d'Anonymous, on ne regarde pas qui vous êtes, on regarde ce que vous représentez. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils portent tous un masque, c'est pour le fait de l'anonymat, et donc ce fait d'égalité aussi. Et que vous pouvez souvent voir, donc c'est le masque de Guy Fawkes. Guy Fawkes qui est un officier britannique, qui un petit peu plus tôt dans les siècles, donc en 1800-1700, j'ai plus la date précise, mais que vous pouvez prendre sur le 5 novembre. Voilà, c'est le 5 novembre 1700... Je ne sais plus la date, je ne vais plus vous la dire pour éviter de vous dire des conneries. Mais en gros, son but, c'était de faire sauter en fait, le Parlement britannique et ce qu'on appelle la conspiration des poudres. Et en fait, il allait y arriver. Bon, il s'est fait balancer par certains de ses collègues et il s'est fait arrêter. Mais il est considéré aux yeux des Anonymous comme le premier... Ah, 1605. Merci, t'as lu pour le lien. Et considéré, entre guillemets, comme le premier Anonymous. Et d'ailleurs, c'est un film qui en est tiré de V pour Vendetta, qui en parle très très bien. Voilà. Donc nous, il est considéré comme le premier activiste et le premier membre d'Anonymous, car en fait, il voulait se dresser contre cet aspect totalitaire et injuste de la Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Voilà. C'est pour ça que... Il y a un petit peu l'histoire du masque d'Anonymous. Donc aujourd'hui, Anonymous, il y en a qui disent que ça n'existe plus. Il y en a qui disent que ça appartient au gouvernement. Il y en a qui disent que c'est des complotistes. Et d'autres qui bossent avec les extraterrestres. Je dirais qu'Anonymous, avant tout ça, ce sont des personnes derrière, des individus, qui se sont rapprochés autour d'une même idée, parce que ça allait plus forcément dans leur vie, où ils voyaient des choses qui, pour eux, ils considéraient injustes. Et aujourd'hui, on se rend compte que les principales branches d'Anonymous encore actives sont dans des pays où l'injustice, elle est très présente. Donc, je pense beaucoup à l'Amérique du Sud avec le Brésil, par exemple, Ghost Sec, la Ghost Security, qui est une section d'Anonymous qui est encore très active. Vous en avez beaucoup aussi en Indonésie, en Chine, en Russie, dans des pays où la liberté d'expression, bah, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Je ne dis pas que vous avez encore une branche en France, mais je vous dirais qu'elle est extrêmement moins présente. Par le fait qu'on a quand même beaucoup de liberté en France que vous n'avez pas dans des pays en cours de développement, par exemple, ou dans des pays qui ont un régime démocratique très instable. D'où c'est un petit peu cette différence d'activité, entre guillemets, ou d'action d'un pays à un autre, ou d'un continent à un autre. Du coup, Anonymous, c'est la principale organisation activiste que tout le monde connaît, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent, hein. Par exemple, vous avez Loulsec, qui est une des sections qui a rejoint Anonymous et qui se fait connaître, elle, par le troll. Donc le troll, c'est Loulz, trolling. qui en fait s'amusait à bloquer des sites du gouvernement et plus tard à des sites de l'État islamique en mettant des effigies ou des emojis qui poussaient à se moquer entre guillemets de l'informatique ou de la sécurité en général ou de se moquer d'un gouvernement. Et ce sont aussi considérés comme des groupes activistes parce que même s'ils étaient dans une partie humoristique, il y avait une lutte derrière qui pouvait être activiste, comme par exemple avec l'État islamique où ils s'en sont bien moqués. Avec différents blocages de sites et des images ou des vidéos qui se moquaient de l'action elle-même, entre guillemets, du terrorisme. Ensuite, vous avez d'autres organisations qui existent. Hein. Je ne vais pas toutes les citer puisque je ne les connais pas toutes déjà, mais j'ai envie de vous dire que vous en avez qui sont un peu plus locales ou des autres qui sont un peu plus internationales. Mais par exemple, vous avez les Anonymes Officiels, qui sont une organisation qui est un débouché d'Anonymous. Alors, eux, ils voient leur fondement dans l'année 2019. Depuis, ils sont un petit peu en action. Il n'y a pas beaucoup de membres, mais je crois qu'ils sont à peu près 173 en international. Leur but, c'est pas de faire de la quantité au niveau du collectif, mais plus d'avoir un cercle assez fermé, avec quelques membres dans chaque pays, et de pouvoir traiter des sujets internationaux ou des sujets un peu plus nationaux. Voilà. Donc ce sont... En fait, vous allez avoir, pour chaque groupe activiste, vous allez forcément avoir une histoire, une idée et un objectif phare. Il y en a qui vont être plus, par exemple, dans la lutte contre le harcèlement. Vous allez en avoir qui vont être dans la lutte contre la censure. Anonymous, c'est la liberté d'expression, leur mot d'ordre. Ça n'a pas été que ça, mais ça a été le mot d'ordre au départ. Antisectaire et lutte pour la liberté d'expression. Loulsec, c'est plus le satiriste ou l'humour. Voilà. Donc, si on revoit cet aspect de trolling. Les Anonymes Officiels, c'est plus cet aspect d'oppression, donc lutte contre les peuples qui se font opprimer dans tel ou tel pays. Et après, vous allez avoir des groupes activistes qui vont, sur un instant T, peut-être bloquer des sites, mais qui auront plus d'action en physique. Je pense d'ailleurs à la communauté anarchiste, donc Cyberguerilla, par exemple, qui avait un site internet où ils faisaient des actions antifascistes et lutte contre le racisme. Alors, je vais quand même faire cette parenthèse. On y a les antifascistes, les anarchistes. Ils sont différents. Ils peuvent avoir cette même idéologie parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Les anarchistes réfutent totalement l'idée de cette société, hein, que ce soit communiste, capitaliste, ou même la société en général dans les pays. Pour eux, ils veulent l'extinction totale de la société comme nous on la connaît. Voilà, ça c'est les anarchistes. Alors que les antifascistes, en fait, eux se basent vraiment sur la partie lutte contre le fascisme, lutte contre toute cette génération identitaire et donc toutes les personnes qui vont segmenter une population ou un pays en fonction de son âge, de la couleur de peau ou de leur ethnie. Donc voilà un petit peu ce qu'est les gros groupes d'activistes et comment ils se conçoivent. Après, vous avez des groupes qui peuvent être plus organisés que d'autres. Par exemple, Anonymous, ils agissaient de telle manière que c'était plus de la section, ou deux, trois personnes qu'on connaissait, mais c'était tout dans le mouvement, et avec des points de rassemblement, que ce soit sur les réseaux ou sur le deep web, ou dans la vie réelle, l'IRL, IRC, IRC pour le net, IRL pour la vie. Et c'est là un petit peu où ils se réunissaient. Donc voilà un petit peu pour l'activisme. Je pense que je surfe le sujet, mais le but, c'est pas forcément d'entrer dans les détails, c'est plus de vous donner une petite base pour le sujet qui vient à la suite, qui était la question, est-ce que l'activisme est pour la liberté d'expression ou est-ce qu'ils sont là pour la nuire? Et c'est là qu'on va jouer vraiment le reste de temps qui nous est accordé, entre guillemets, parce que c'est un débat qui mérite à indiquer. Il y en a qui vont dire, oui, forcément, les activistes, ils sont là pour la liberté d'expression. Et ben, je vous donnerai l'exemple contraire, qui est le contre-exemple, qui est l'État islamique sont des activistes, parce qu'ils font une action, pas forcément une très bonne action, mais ils en font une. Et dans la plupart des cas, c'était des activistes qui censuraient la liberté d'expression dans plusieurs pays. Ou en tout cas, qui nuisait entre guillemets à cette liberté. Donc en fait, c'est là qu'on va avoir vraiment tout cet argumentaire, c'est est-ce qu'un activiste, il est forcément bon? Est-ce qu'un activiste, il est forcément là pour aider? Et ça, c'est un débat, je pense, qu'on peut tous avoir. Parce que c'est un questionnement, ça revient aussi avec les bons ou les mauvais hackers, ce qu'on appelle les white hat, les black hat, les grey hat. Donc c'est toute cette parenthèse-là. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est de savoir à quel moment vous avez votre liberté, à quel moment un hacker peut vous la nuire. Et ça argumente sur les sujets qu'on a traités aussi avant avec la cybersécurité, parce que la cybersécurité amène à cette protection de la liberté, protection de l'infrastructure, mais aussi la protection de cette liberté. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se dit, est-ce qu'il y a vraiment cette liberté d'expression dans certains pays, ou est-ce que c'est une mascarade? Voilà. Il y a plein de questions, et je pense que, alors, je ne sais pas si Mel sera d'accord, mais je propose qu'on fasse de ce débat peut-être un débat où tout le monde peut avoir la parole. Donc, j'ai envie de vous retourner un petit peu la question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que être activiste, c'est être pour la liberté d'expression, ou plutôt c'est être contre? Voilà. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, t'as Obi qui dit, pour moi, hacker, c'est pas de politique, pas de religion. D'accord. Donc, tu considères les activistes comme étant quoi, en fait? Pour toi, ce sont des...
Bah, je sais pas. Dans les hackers, il y avait quand même un côté développement de technologie ou je sais pas, des trucs comme ça. Tu vois, pour moi, c'est la politique, en fait. C'est pas vraiment un mouvement informatique qui développe des technologies open source ou je ne sais quoi, tu vois.
D'accord. Donc, en fait, pour toi, le terme hacker, entre guillemets, la représentation des hackers n'a rien du tout d'activiste, c'est ça?
Ouais, c'est un truc technique à la base. Enfin, c'est une compétence technique, quoi. C'est pas de la politique, quoi.
D'accord. Quelqu'un peut donner un contre-argument ou argumenter sur ce point-là?
En soi, le hack, c'est un outil, d'accord, mais du coup, à partir du moment où tu fais de l'activisme en utilisant le hack, bah, c'est de l'activisme, point, en fait, et c'est politique.
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Après, c'est une question, c'est à quel point tu considères le hack dans sa définition, notamment au sens large. Est-ce que Stallman, quand il a trollé le concept de droit de propriété, comment ça s'appelle déjà, de licence, en faisant une licence open source, libre. Ouais. Donc protéger le fait d'ouvrir ton logiciel avec une licence, en fait, donc le copyleft, ce qu'il appelle, est-ce que c'est un hack?
C'est super intéressant ce que tu dis. Alors, je sais pas si tu as lu le bouquin, mais il y a un bouquin de... Alors, je sais plus qui... l'avait dit dans une interview de Thinkerview, mais c'est un bouquin que je ne connaissais pas, que j'ai acheté suite à ça. Le bouquin de Pekka Immanen, c'est l'éthique hacker et l'esprit de l'ère d'information. Il y a une préface de Linus Torvald et une postface de Manuel Castell. Et c'est très intéressant parce que ça parle exactement du débat qu'on a ensemble en ce moment, et ça rejoint beaucoup les propos qui ont été dits juste avant. Je ne vais pas en dire plus, puisque tout ce que je pourrais dire, c'est dans le bouquin. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'acheter le bouquin, de le lire. Et c'est vraiment super pertinent. Et ce que tu dis, ça fait vraiment écho à ce qui a été écrit dans le bouquin. Et comment et Pekka Immanen, c'est vraiment comme ça qu'elle se pose la question et qu'elle l'intellectualise, entre guillemets.
Voilà. Et du coup, pour aller un peu plus loin dans la question, juste pour après, je laisserai Talu s'exprimer. Est-ce qu'on considère du coup le hack comme on va voler des documents secrets et les donner à Wikileaks pour que ça soit balancé au public, ou est-ce qu'on va considérer que le Belge qui a fait une IA qui vérifie si les parlementaires ne passent pas trop de temps sur leur téléphone, c'est du hack également, en fait?
Bah, c'est une question intéressante. Moi, je considère que... le hacking, c'est le détournement de la fonction principale d'un objet ou d'un logiciel ou de quelque chose pour en faire autre chose. Je crois que c'est ça la base du truc. C'est le bidouillage, c'est à la base le hacking, les premiers hackers, entre guillemets, c'était les freakers. Ceux qui, avec le petit sifflet qu'on trouvait dans les pots de céréales, là, ils arrivaient à faire le signal parfait pour ne pas payer les télécommunications aux États-Unis. Ça, c'était les premiers hacks, on va dire. Et moi, c'est cet esprit-là que je retiens dans l'esprit du hacker. Après, il peut prendre plein d'autres formes différentes, je pense. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le retiens. Et moi, typiquement, je ne me considère pas du tout comme un hacker. Je ne suis pas du tout un hacker. Je construis rien, très peu d'outils. Je détourne pas grand-chose. Et je suis pas un hacker. Je suis juste un gars qui fait de la sécurité info dans son taf. Je développe pas de l'open source pour les autres, je détourne pas des fonctions d'un logiciel pour en faire autre chose. Et pour moi, il y a vraiment un côté un petit peu noble dans le terme hacker, qui malheureusement est un peu utilisé à tort et à travers, je trouve, dans la société.
Mm-hmm.
Je sais pas si j'ai répondu à la question, je vais juste ajouter un autre commentaire là-dessus.
C'est intéressant, et puis ça répondit un petit peu à la question de dire est-ce qu'aujourd'hui un hacker on peut le considérer comme étant bienveillant ou bah forcément il est malveillant. Voilà. Ça c'est encore c'est une autre question qui suit, et je dirais que ça rebondit dans la partie activiste. Mais je vais laisser Talu prendre la parole s'il veut bien, puisque j'ai vu qu'il a fait l'emoji. Donc Talu, je te laisse parler. Ah, ok. En fait, vous venez tous de donner des exemples de ce que je voulais dire. Je pense que hacker est devenu un mot valise qui englobe plusieurs aspects, eux-mêmes déclinés en plusieurs branches. Du coup, chacun a sa petite version. Oui, c'est pas une idée en soi qui est dérangeante. Et je pense même qu'on peut argumenter en disant que peu importe la version qu'on conceptualise au mot hacker, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, c'est en fonction du contexte actuel. Le contexte, en fait, la situation va jouer beaucoup sur l'origine du hacker ou ce qu'il compte faire. Voilà, il y a le contexte de l'argent. À un moment, quand on a besoin d'argent, on peut devenir malveillant parce qu'il faut nourrir sa famille, par exemple. Un hacker qui a des idées, qui voit des choses sur le net qui pour lui sont injustes ou qui montrent que bah il y a aucune justice, va peut-être être plus bienveillant et va peut-être devenir à ce moment-là ce qu'on pourra appeler un activiste et signaler des choses. Je pense que ça dépend aussi du contexte. Oui, Nolan? Nolan, si tu veux activer ton micro.
Alors, je vois le micro qui s'active, il y a son...
Ah, c'est parce que j'avais mis mon casque, pardon. Oui, pour moi, le hacker, c'est un mot général qui définit une personne qui va hacker quelque chose, quelle que soit sa motivation, quel que soit son but final, l'idée d'aller bidouiller la chose et puis d'essayer d'entrer ou d'essayer de casser, mais pas forcément, c'est pas forcément négatif ou positif, en fait. Je pense que le hacker, c'est plus un terme qui devrait être utilisé en tant que globalité de toutes les personnes qui font cette chose, enfin, qui essayent de faire des choses, quoi. Ouais. Et après, effectivement, de qualifier... Comme c'est le cas, hein, de black hat, de white hat, de pirate, de... Enfin, en fait, après, c'est d'autres mots qu'il faudrait utiliser pour qualifier la motivation de la personne.
Pour toi, tu considères qu'il faut qu'il y ait un terme précis pour chaque contexte, c'est ça ?
Bah, peut-être pas pour chaque contexte, parce que chaque contexte peut être vraiment ultra spécifique, mais si une personne a pour principale motivation de faire une action négative, une action qui porte préjudice à quelqu'un d'autre, bah, pour moi c'est un pirate, parce que tel le pirate historique, il va truander en fait. Après, le Black Hat, il a quand même un concept un peu différent, qui n'est pas forcément pour son propre profit, tu vois. Après t'as le White Hat, lui il va plutôt justement être un peu l'ange gardien, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il faut, bon, je pense que le terme hacker il chapeaute un peu toutes les autres catégories en fait.
Un terme un peu général comme la cybersécurité en gros.
Ouais voilà, un truc qui dit bah voilà c'est une personne qui va pour quelle que soit la raison, en fait, qui va aller bidouiller le code, bidouiller un appareil, bidouiller n'importe quoi pour trouver une faille. Et puis après, soit il va exploiter cette faille, soit il va même pas l'exploiter, parce que des fois, il y en a, ils s'amusent juste à casser les sécurités, puis ensuite, ils font rien, quoi.
Mmh. Ça se tient.
Mais ouais, à la base, pour moi, c'était un truc quand même à la base où justement, parce qu'on était dans un climat où vraiment l'informatique était très institutionnelle, où tu avais des grosses firmes genre IBM, c'était presque armé, quoi. C'était des gros trucs quand même assez conservateurs et tout, quoi. Et ils se la pétaient avec des trucs ultra sécurisés qui n'étaient en fait pas. Et pour moi, les hackers, la mentalité des hackers, c'est de se dire on n'a pas besoin tu vois, d'être l'armée pour faire des soft secures, et on peut péter leurs soft secures, eux qui se la pètent avec leurs gros trucs, en fait, on va leur niquer en deux secondes, et puis à chaque fois, ils les ont niqués en deux secondes, tu vois. Et qu'en fait, c'était un autre mode de développement. Parce que le but, c'est quelque part d'avoir aussi. Tu sais, on dit hacker, mais hacker, ça peut être aussi être amélioré, tu vois. Ça peut être faire un petit patch pour un truc, tu vois. Ça peut être aussi être un hack, tu vois. C'est pas trouver une faille, quelque chose, quoi. Ça peut être juste améliorer un logiciel, bricoler, tu vois, comme Apache, tu vois, qui voulait dire Apache Server, tu vois, parce que c'est un truc qui a été fait avec des milliards de patchs, des petits patchs de tout le monde qui arrivent dessus, qui met dessus, tu vois, au lieu de faire un truc, comment dire, en cascade, tu vois, pyramidal.
Non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, bien moi pour moi je me bats. C'est un grand mot de dire je me bats, parce que j'essaye d'éduquer les gens entre guillemets, en tout cas les gens qui sont autour de moi, hein, donc soit dans ma sphère pro, soit dans ma sphère perso, mais effectivement déjà faire un premier travail de dédiabolisation entre guillemets du hacker, parce que si tu branches BFM et qu'il y a une cyberattaque. Y a des méchants hackers qui t'ont piraté, voilà. Mais effectivement, le truc de base, c'est effectivement d'aller bricoler, modifier, améliorer, contourner, refaire en mieux ou refaire pour faire autre chose. C'est ça le leitmotiv de base du hacker. C'était aussi, et on l'a pas dit parce que là, on se base surtout sur la partie technologique. Et ce que va faire un hacker, mais il y a aussi tout l'esprit d'entraide et de partage. Parce que, à la base, les réseaux, quand ils ont été créés aux États-Unis et notamment au MIT, c'était des réseaux qui étaient faits pour se partager de l'info entre universités. Leur but, c'était pas forcément de casser des sécurités, puisque au début, il n'y avait pas de sécurité, puisqu'il n'y avait pas ce besoin-là. Aujourd'hui on parle de sécurité et on associe le hacker à quelque chose de pas bien, à un méchant qui voudrait pénétrer dans vos systèmes d'information, mais effectivement si on retourne à la genèse un petit peu du truc, et c'est ce qu'a essayé de faire PK Immanen dans son livre, c'est d'essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient, et c'est quel était leur but à la base. Si demain je sais pas votre télécommande elle envoie un signal de, je sais pas, je vais dire une énorme connerie, mais de 4 Hz, et que ce même signal en fait il peut aussi vous permettre de, je sais pas, je vais dire une connerie, mais verrouiller votre voiture, je dis une énorme connerie, si, en bricolant un peu votre télécommande, vous pouvez peut-être en faire un nouveau système pour ouvrir votre voiture. Ça peut être ça le hack, ça peut être de détourner ces choses-là. Est-ce que après on peut considérer que par exemple un avocat ou un mec qui fait de l'éloquence, ils détournent un petit peu les mots, leur utilisation en parlant bien, en les utilisant dans des contextes différents. Est-ce qu'un petit peu ils hackent la langue française et que du coup ils permettent de faire des choses que normalement ils ont, enfin, n'importe qui ne pourrait pas faire. Ça peut être aussi, ça peut être aussi une façon de voir les choses, je pense.
Maintenant, ils parlent même de biohacking, tu vois.
Ouais, bah par exemple, ouais. Ouais, bah oui, carrément. Est-ce que finalement, CRISPR-Cas9, c'est pas un peu du hacking? Bah peut-être.
Bah non, je sais pas. Par des institutions et des grosses boîtes, non. Mais si c'était fait par des individus comme ça dans leur garage, ouais.
En fait, je suis moyennement d'accord parce qu'en fait, quand tu regardes, tu as le life hack tout simplement qui te permet genre d'utiliser, je sais pas moi, ton trombone pour faire une petite machine à envoyer des boules de papier à ton voisin, enfin, avec un électrique et tout. Et ça, c'est un hack. Je veux dire, hacker quelque chose, c'est le détourner, c'est le transformer, c'est le pénétrer, c'est le, tu vois, le casser ou le changer. Donc en fait, on peut l'associer à tout. C'est pour ça que je trouve que c'est un terme assez générique. Et si on regarde de base, par exemple, dans l'histoire, un des premiers films qui parle de hacking, War Games, pour ceux qui connaissent, puis qui sont assez vieux pour connaître, si vous ne le connaissez pas, regardez-le. On voit que même un hacker qui s'amuse, ça peut être un enfant qui s'est trompé, qui a fait des manipulations sans savoir, et puis qui est tombé sur un truc, et puis qui savait pas qu'il y avait une innocence totale en fait dans ce qu'il faisait, qu'il avait absolument pas de vocation de faire du mal. Pourtant, il est arrivé à faire un truc qui mettait en danger la planète entière.
Donc au final, est-ce que un activiste ou un hacker, il fait du bien ou est-ce qu'il fait du mal? Parce que je vois qu'ils disent, est-ce qu'un hacker, il est réellement illégal ou est-ce qu'il n'est pas illégal?
Ah, ça dépend. S'il pénètre dans un système de traitement de données informatisé de manière illégale, comme l'est défini dans le code pénal, oui. Il fait quelque chose d'illégal. Maintenant, il détourne son clavier pour, je sais pas, faire autre chose que d'écrire du texte pour en faire autre chose, non, il fait pas quelque chose d'illégal.
C'est la loi qui définit les actions. En fait.
C'est exactement ça.
Loutre voulait parler. Loutre, si tu veux parler, n'hésite pas.
J'ai la question, à partir de quand est-ce qu'on deviendrait activiste? Est-ce que avoir cherché à protéger des données, ça fait de nous un activiste?
C'est une action comme une autre. Donc je répondrais que oui, à partir du moment où tu émets une action, qu'elle soit politique ou non, mais que c'est dans un but de faire changer les choses, on peut imaginer que c'est de l'activisme. Ça fait. En tout cas, moi, c'est ma vision. Pas la vision de tous.
Mais pour moi, ce terme d'activisme, c'est vraiment un truc qui est arrivé avec Anonymous, en fait, plus ou moins, non?
Bah en fait, oh, avant, t'avais pas forcément le H de l'activisme. T'avais que le A, et l'activisme en soi, tu l'as depuis, je dirais pas les centaines et les centaines d'années, mais comme si, tu vois. Donc, si on prend Martin Luther King, c'était un activiste. Si on prend... Gandhi, c'était un activiste. Maintenant, c'est la question du H. Je pense qu'il vient avec la révolution d'Internet. Je pense que c'est à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des injustices aussi sur le net, qu'il y a toute cette mouvance qui s'est créée, je pense. Mais placer ça sur le compte d'Anonymous, Anonymous a fait beaucoup de choses, mais je pense pas que c'est lui qui a créé l'activisme.
Anonymous, c'est celui qui a contribué à faire connaître justement ce mode de fonctionnement, je pense. Mais
Et c'est ça, c'est de la manifestation, sauf que au lieu de descendre dans la rue, on fait des attaques informatiques sur des systèmes.
Une action comme une autre, oui. Et c'est ça.
Mais c'est une forme de protestation politique finalement. Sauf que au lieu de devoir être 15 000, 20 000, 100 000, 150 000, 1 million à descendre dans la rue devant je sais pas, l'église de la Scientologie, pour prendre l'exemple d'Anonymous parce que c'était leur premier combat, en tout cas le premier bien médiatisé et connu, bah, eux ils étaient beaucoup moins nombreux et du coup ils ont utilisé les compétences de certains. Parce que tous n'étaient pas très ultra compétents en IT. Hein. Pour manifester une opinion politique d'une manière, enfin de manière à bloquer entre guillemets, bah, du coup les sites web. Donc finalement c'est pareil que quand on descend dans la rue et qu'on manifeste contre ceci ou cela, qu'on va devant le Parlement pour dire votre loi c'est de la merde, votre loi c'est de la merde. Bah finalement, le Anonymous, ce qu'il fait, c'est que il va mettre hors service le site web, il va publier quelque chose par-dessus pour dire bah, ce que vous faites, c'est de la merde, ce que vous faites, c'est de la merde. Voilà.
C'est une forme de contestation.
Ouais, je pense que c'est plutôt un vecteur que. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un moyen de faire valoir ses idées.
C'est un moyen comme un autre. Après, je dirais qu'entre mettre, entre bloquer un site ou bloquer une rue, le degré d'impact n'est pas forcément le même. Et je dirais peut-être qu'aujourd'hui, bloquer une rue, c'est peut-être plus faible que bloquer un site.
Oui, bah justement, en fait, ça touche là où ça fait mal. Et dans l'activisme, c'est ce qui est recherché. Que ce soit de l'activisme dans la rue ou de l'activisme avec un H, peu importe. Je veux dire, du moment qu'on utilise le moyen de protestation, on essaie de toucher là où ça va faire le plus mal.
Oui. Et de toute façon, y a aussi une chose que. Parce qu'on a parlé de l'activisme, on a parlé de l'activisme avec un seul A, et il y a aussi le cyberactivisme qui rentre en ligne de compte et qui se différencie un petit peu de ceux qui vont pénétrer un système informatique, mais qui vont par exemple utiliser les réseaux sociaux, qui vont utiliser les hashtags, leur force de commentaires ou de likes pour créer ce cyberactivisme. On peut l'avoir avec une activité récente sur la plateforme TikTok, avec ce qui s'est passé en Palestine. On a eu beaucoup de cyberactivisme. Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est encore une facette de plus de ce qu'on peut faire au niveau activisme sur le net.
Oui, mais ce que je trouve rigolo, c'est qu'on donne des termes comme ça, différenciés, au final, au terme d'activisme, sachant que, ben, en fait, c'est uniquement arrivé à partir du moment où on avait le cyberespace. Avant ça, on n'a pas différencié vraiment quelqu'un qui se faisait sauter avec une bombe pour protester contre je sais pas quoi, ouais, de celui qui allait juste jeter des œufs sur une façade. C'était des activistes, point.
Je pense que c'est comme les hackers, en fait. T'as forcément le yin et le yang, et parfois, c'est mélangé. C'est le souci
d'entre eux. Je pense que... Mais c'est vraiment un truc perso que je pense, et j'ai rien pour sourcer tout ça, mais c'est une réflexion. Je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui descend dans la rue et qui se fait sauter avec une bombe, ou quelqu'un qui s'attache à un arbre pour pas qu'une entreprise s'implante, ou quelqu'un qui va récemment là, dessiner à la gouache sur le nouveau bâtiment de LVMH, il fait une action d'activisme. Mais disons que c'est des choses que les États, de manière générale, et ou les entreprises, sont plus ou moins... en capacité de gérer, et c'est facile de le médiatiser parce que c'est connu et reconnu entre guillemets. La grosse différence qu'il y a eu, je pense, quand le cyberespace est arrivé, c'est qu'il y a un monde tout nouveau où d'un coup c'était pas ceux qui avaient plein d'argent et les grosses mitraillettes qui gagnaient, Mais des gens qui savaient juste utiliser leur cerveau et leurs 10 doigts, et avec peu de moyens, ils arrivaient à faire tomber des gros trucs. Et du coup, je pense qu'il y a eu aussi, et ça c'est mon avis perso, un peu une diabolisation de tout ça, et du coup une facilité dans l'utilisation de certains langages, et d'où les mots un peu valises, où on met tout dedans. Et vu qu'on met tout dedans, bah finalement on ne sait pas trop ce que c'est. Mais du coup ça nous arrange bien parce que de toute façon c'est de leur faute. Et c'est ça aussi qui n'aide pas à ce qu'on utilise les bons termes et qu'on définisse vraiment qui est quoi, pourquoi et comment. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi ce genre de différence-là. Parce que finalement, ils se montrent pas, ils sont cachés. Je pense qu'il y a eu un petit peu ce truc-là dans le... Enfin, c'est ça pour moi qui fait aussi un petit peu la petite différence. Mais vas-y, bon. Nolan, si tu voulais parler. Enfin, répondre à ce que j'ai dit, du moins.
Nolan, tu nous entends?
Allô?
Ouais. Oui, ça y est, on t'entend. Ah, bah là, on t'entend pas.
Petit souci technique, a priori.
Ah oui, c'est bon, on t'entend.
C'est louche. Je crois que c'est mon PC qui rame.
Eh bien, écoute, je ne sais pas.
On ne pourra pas te le dire.
C'est mieux.
Ouais, c'est mieux.
Je vais essayer donc de dire ce que je voulais dire. Donc je pense que ceux qui mettent tout un peu dans le même sac, c'est aussi des gens qui n'ont pas forcément compris que le cyberespace, c'est une deuxième réalité, en fait. C'est une réalité parallèle, je dirais. Et en fait, c'est la même chose que le monde réel, au final. Ouais. On trouvera de tout, on trouvera de tous les types de personnes, on trouvera tous les types de comportements. Et en fait, il faut vraiment le réfléchir de la même manière qu'on réfléchit le réel, dans le sens où... c'est vrai qu'au début, quand Internet a été créé, comme il disait, c'était surtout pour échanger des informations entre les universités, donc de la collaboration. C'est parti sur un principe d'entraide et sur un principe où tout le monde était beau, tout le monde était gentil, on voulait faire avancer les choses, etc. Donc tous les vieux, entre guillemets, sont peut-être restés un peu bloqués sur ça. Et puis en fait, ça a vraiment évolué d'une façon totalement monstrueuse. En fait, ça, c'est un Big Bang qui est devenu une galaxie, quoi. Et donc en fait, à l'heure actuelle, on doit vraiment le réfléchir comme un monde réel alternatif, et pas essayer de enfin, je sais pas comment expliquer.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai le fait que je sois d'accord, hein, mais c'est juste pour dire que je suis d'accord avec ce que tu as dit. Il y a un assez bon exemple, je trouve, enfin un truc de comparaison assez, assez cool. Quand les crypto-monnaies, elles ont un peu émergé, ou en tout cas que c'est devenu assez public, les chaînes d'économie, elles ont commencé à en parler, elles ont commencé à interviewer des économistes, des classiques, j'ai envie de dire. Sur les crypto-monnaies, alors que ils y connaissaient rien, hein, parce qu'ils n'ont jamais codé une seule ligne de code de leur vie. Donc ils disaient des grosses âneries, et il y avait mais c'est une monnaie virtuelle, mais on a oublié de leur dire que l'euro, il est tout au plus à 80% virtuel. Et du coup, il y a vraiment, effectivement, comme tu le disais, Nolan, un espèce de clivage où on veut nous dire que non, Internet c'est un truc virtuel et y a la vie réelle à côté. Mais non, en fait, les deux s'imbriquent et les deux vivent, alors j'allais dire en symbiose, mais je sais pas si je peux dire vraiment en symbiose. Et du coup, moi je pense que c'est surtout dû au fait que les gens qui aujourd'hui soit sont à la tête des États, soit à la tête des médias ou des choses comme ça. En fait, ils comprennent pas du tout ce monde-là, et vu qu'ils le comprennent pas, ils en ont un petit peu peur, et du coup, ils en font une démonstration qui est pas la bonne. Et du coup, le truc, le parallèle que tu faisais entre le truc réel et le truc virtuel, bah, dans les cryptos, typiquement, c'est vraiment ça qui s'est passé, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et quand on réfléchit à un problème du cyberespace, il faut le réfléchir de la même manière qu'on réfléchit dans le monde réel. Parce qu'effectivement, c'est, les gens sont réels derrière. La plupart des actions sont, sont justement dictées par des idéologies, des convictions, des valeurs qui sont des valeurs humaines, des valeurs réelles. Donc, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas traité de la même manière.
Ouais. Je suis assez d'accord, mais malheureusement, la juridiction. Bah, elle avance beaucoup plus lentement que
ça pose une autre question. C'est-à-dire que en fait, on a un monde réel qui est divisé en pays et en États, et on a un monde virtuel qui est mondialisé et qui a en fait pas de gouvernement mondial. Donc, tant qu'on n'a pas un gouvernement mondial ou une entité en tout cas qui va chapeauter tout ce qui est mondialisation. Eh ben, le cyberespace, il sera tiraillé parce qu'il est à moitié en dehors des juridictions. Il est entre deux, quoi.
Ouais, je suis assez... Ouais, clairement. Et puis, je pense qu'il y aura... Il y aura de toute façon, même s'ils essayent de le faire rentrer dans des carcans, si je puis me permettre l'expression, il y aura des défenseurs de tout ça. Et moi le premier, enfin moi le premier, peut-être pas moi le premier d'ailleurs, mais en tout cas j'en ferai partie. Enfin, on peut pas faire Internet à l'image de ce qu'est l'État français par exemple, parce que c'est complètement différent. Et il lui faut des choses adaptées à ce qu'il est en tant que tel. Et au comportement qu'on adopte dessus. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit avancer très très vite, et puis il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on prenne un peu plus le temps de se renseigner. Je pense que typiquement sur le cyberharcèlement, on n'a pas besoin de réfléchir 100 000 ans. Il faut que les peines elles soient prononcées rapidement et qu'on mette rapidement des moyens. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être discutées un petit peu plus longuement. Est-ce que quand un pentester trouve une faille sur... moi, je me balade sur Shodan, je trouve une faille sur un site web d'une entreprise. Je n'ai pas été payé pour, c'était pas dans le cadre d'un contrat. Mais je suis mignon, je leur signale. Et eux, ils m'attaquent en justice. Bon, bah ça, je considère que ça peut prendre un petit peu plus de temps pour qu'on voit dans quel cadre, oui, non, pourquoi, la jurisprudence, tout ça. Mais que des questions de cyberharcèlement, par exemple, il faut qu'on s'en occupe très, très rapidement. Mais il faut surtout les adapter à l'espace dans lequel ils sont faits. Et oui, c'est important.
Je pense que nous avons fait une grande argumentation. Il va être à peu près l'heure. Je pense qu'on va s'arrêter là au moins pour le direct avec l'After Thinking, en remerciant chaleureusement nos hôtes de nous avoir permis de nous exprimer, je pense.
Bah, merci à vous. Merci.
Voilà.
Ouais, très instructif. Encore merci à tous.
J'espère que c'était pas trop trop rébarbatif.
Pas du tout, très intéressant.
Ouais, j'ai mis vraiment tout, enfin pas tout, mais en grande partie les trucs que j'utilise et les livres que je vous conseille. Monsieur des bouquins que si vous suivez Thinkerview, ça vous étonnera pas. Dans le document livre blanc que vous pouvez aller consulter, il y a plein de trucs assez intéressants et rigolos à utiliser. Et après, vu qu'il y a plein de questions, j'ai essayé de répondre un petit peu, j'ai pas tout répondu. Pareil, si vous voulez, je crois que je suis dans les chats informatiques, en tout cas pour ma part, je parle pour moi. Donc du coup, si vous avez des questions et que vous voulez me taguer dessus pour que je vous donne mon avis, qui ne sera pas le meilleur, mais qui sera un avis parmi tant d'autres, vous pouvez, j'essaierai de répondre au mieux.
Voilà. Dans tous les cas, on essaiera de traiter les situations en fonction des questions qui peuvent être amenées. Faut savoir que on a la chance, on va dire, sur l'After Thinking, d'avoir des personnes qui s'y connaissent, que ça soit dans le milieu informatique que dans le milieu de la cybersécurité. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que si un jour vous avez un souci, vous avez une question, c'est l'occasion d'aller dans cette chat informatique qui soit un petit peu bas dans ce serveur et peut-être de poser vos questions directement. On sera heureux d'y répondre.
Un petit mot de conclusion, une bouteille à la mer.
Facile, facile, elle a été facile celle-là, Mike. Melk. Elle a été très très facile, mais très bien, mais à la fois.
Il n'y a pas bento, ça va pas.
Eh ben, on va faire une petite situation. Ce qui a été créé par l'homme sera détruit par l'homme. Voilà.
Je suis parfaitement d'accord avec ça.
Moi, je vais faire une autre citation aussi, puisque tout le monde fait des citations. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Jean-Jacques Rousseau, je l'aime bien celle-là. Voilà. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est une citation que j'aime bien.
Deux bouteilles pour le prix d'une.
Voilà. C'était parfait. Allez, merci, on coupe.